Je vous prie de m'excuser pour ce retard. J'ai eu un problème avec ma clé USB ce matin. Désolé de m'être fait désirer comme ça. Mais en revanche, je vais essayer d'être très succinct et rapide. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà le château d'Oiron, un château dans les Deux-Sèvres que vous voyez là, dont les phases de construction s'étalent du XVIe au XVIIIe siècle. Ce château a été acheté par l'État pendant la guerre, entre 1941 et 1943. Il a été encore habité par la dernière propriétaire dans un tout petit appartement, dans une des tours, jusqu'en 1947. Il était en très mauvais état, c'est pour ça que l'État l'a acheté. Et pendant très longtemps, on s'est juste occupé d'assurer le clos et le couvert. On a coulé des dalles de béton pour éviter que ça ne devienne une ruine. C'est un château qui est, donc j'ai dit, dans les Deux-Sèvres, entre Thouars et Loudun, c'est-à-dire à 80 km à l'ouest de Tours, et qui est par conséquent à l'écart du grand circuit touristique des châteaux de la Loire. Il est pourtant à peu près dans le même ensemble. Enfin, il y a des polémiques pour savoir si c'est vraiment un château de la Loire ou pas, mais ce n'est pas ce qui nous préoccupe ici. Donc, dans les années 80, on a commencé à s'en préoccuper. On a commencé sérieusement à le restaurer, à faire des travaux. On a même rajouté un escalier pour pouvoir faire une circulation à l'intérieur du château. Et on a commencé à acheter, ce qu'on fait d'habitude dans un château comme ça, des meubles, des tapisseries, pour le remeubler, puisqu'il était complètement vide. Il y avait trois salles avec des décors extrêmement riches et chargés, une galerie de fresques du XVIe siècle sur la guerre de Troie, deux autres salles avec un décor très riche qu'on verra tout à l'heure, et le reste était complètement vide. Puis, on a commencé à se poser des questions sur le fait de recréer une nouvelle fois un décor complètement artificiel, en fait, de faire ce qu'on ferait pour un film d'Hollywood, c'est-à-dire de prendre des meubles et des objets chez les antiquaires et de meubler le château. Et on a commencé à se demander si on pouvait pas y faire des interventions d'artistes. Didier Semain et Guy Tortosa ont fait venir des artistes, ont eu l'un ou l'autre projet. Il y a eu aussi quelques expositions, une exposition qui s'appelait Meltem, puis à deux reprises des expositions faites avec les œuvres du FNAC. Et j'ai eu la chance en 1990 d'être nommé directeur artistique pour en quelque sorte remeubler le château avec des œuvres d'art à partir du budget de la commande publique. Je suis parti sur une idée qui était celle des cabinets de curiosité. Il y avait à ce moment-là un livre qui venait de sortir, le livre d'Antoine Schnapper, « Le géant, la licorne, la tulipe », qui m'a beaucoup servi. Et il y avait un livre important sur les cabinets de curiosité qui venait de sortir aussi, qui était celui de Dalal Jizia Louli. À partir de ça, je me suis dit qu'on pouvait peut-être constituer une colonne vertébrale et avoir une espèce de concept qui se relie à l'histoire du château. Je n'ai absolument aucune preuve qu'il n'y ait jamais eu un cabinet de curiosité dans le château d'Oiron, mais le livre de Schnapper disait très précisément que toutes les collections françaises qui lui étaient connues au XVIIe siècle comprenaient à la fois ce qu'on appelait des naturalia et des artificiala, c'est-à-dire aussi bien des œuvres d'art que toutes sortes d'objets venant de la nature et sur lesquels on s'interrogeait ou sur lesquels on racontait des histoires merveilleuses. Vous savez que ces cabinets de curiosité qu'on appelait en Allemagne des Wunderkammer étaient donc des lieux où on rassemblait des objets qui étaient extraordinaires, c'est-à-dire justement des objets qui suscitaient l'intérêt ou l'étonnement et sur lesquels on se posait des questions et à partir desquels souvent on imaginait des histoires tout à fait fabuleuses ou des pratiques magiques. Je suis donc parti de cette idée et j'ai repris grosso modo des topics des cabinets de curiosité. C'est donc une espèce de transposition de la Renaissance au temps moderne, mais qui permettait d'établir une liste d'artistes en pensant à des œuvres possibles et surtout en ayant pour toutes les œuvres qui du coup été commandé ou installé dans le château une relation au monde d'une manière ou d'une autre. Alors cette relation au monde, on peut d'une manière très schématique la regrouper en 4 ou 5 thèmes. C'est un château, comme je vous l'ai dit, à l'écart des grands circuits, une espèce de bel homme bois dormant, comme on peut voir ici, qu'on a essayé de réveiller en mettant cette collection dans les salles. Alors, la première catégorie, ce serait celle qui, d'œuvres qui partent de phénomènes naturels, une espèce de phénoménologie, si vous voulez. Dans les cabinets de curiosité, évidemment, c'était dans un état complètement pré-rationnel. Ici, c'est une œuvre de Charles Ross, un Américain. Il s'agit d'un appareil qu'il a fabriqué en Arizona et qui permet d'avoir la marque du soleil chaque jour avec une lentille qui est placée sur une planche qu'on remplace, un temps blanc qui est remplacé chaque jour. Et par conséquent, le soleil trace, brûle la planche et fait ses traces. On a donc là les 365 jours de l'année. Et si vous voulez, les moments où la trace n'apparaît pas, c'est bien sûr le moment où il y a des nuages, où le soleil est voilé. Donc on a une espèce de relation très directe à l'astronomie, au soleil, à sa course, et une espèce de démonstration qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de scientifique, mais qui est en fait la démarche d'un artiste. De la même manière, on a des œuvres de Pennone qui sont simplement des mues de serpents qui sont montrées là sur des grandes tiges de verre avec sur la feuille placée au sol une empreinte de sa peau, de son coude. C'est la comparaison entre la surface, si vous voulez, le grain de sa peau et ses mues de serpent. Toujours dans le même ordre d'idée, une œuvre de Pascal Convert, qui est en fait une fonte en bronze d'un corail madrépore, mais qui ressemble tout à fait à un cerveau, et cette comparaison se faisait déjà à la Renaissance. Alors on a des œuvres du même genre, de Paul-Art Mengette, de Duprat, avec ses fameux petits trichoptères. Et quand on parle de la nature à la Renaissance, on parle évidemment aussi beaucoup de monstres, puisqu'on croyait à l'existence d'un certain nombre de monstres, d'animaux tout à fait hybrides, sur la foi des textes latins qu'on prisait et qu'on remettait à jour à ce moment-là. Et donc il y a évidemment un certain nombre d'animaux tout à fait extravagants, comme ces animaux de Grunfeld. Ici, une sorte de Pégase licorne, enfin qui n'est pas une vraie licorne, puisque ce cheval a une corne un peu bizarre, qui n'est pas une corne de narval, mais enfin c'est un animal tout à fait imaginaire et qui rappelle la mythologie. Il y a par contre aussi un certain nombre d'œuvres, ce serait la seconde catégorie, qui sont plus proches de rapports réellement avec la science. Il y a eu un mouvement dans les années 60 qui s'appelait Art and Technology, qui a donné lieu à pas mal d'expositions. En faisait partie cet artiste Tom Shannon, Kowalski aussi, qui est présent dans le château. Et ici, c'est un phénomène assez extraordinaire. On a donc cette sphère qui est coupée en deux par une énorme disque qui fait, je ne me rappelle plus exactement des dimensions, mais c'est 3-4 mètres, quelque chose comme ça. Et l'hémisphère supérieur flotte réellement par un système magnétique. Bien sûr, elle est retenue, parce que vous savez sans doute qu'il n'y a pas de champ magnétique qui soit totalement fixe. Le champ magnétique pousse dans un sens ou dans un autre, et par conséquent il y a juste un petit fil de nylon qui retient cet hémisphère et qui l'empêche d'aller se plaquer sur le grand disque de métal. Mais voilà le genre d'œuvres que j'ai recherché pour cette collection, c'est-à-dire des œuvres qui restent pour nous étonnantes, surprenantes et qui peuvent correspondre On est bien sûr dans un monde désenchanté, comme dirait Max Weber, mais qui correspondent à cet émerveillement des Wunderkammer, des cabinets de curiosité d'autrefois. Varini, on a déjà vu plusieurs œuvres de lui, je crois, ce matin, qui peint ses formes tout à fait étranges sur les murs. Et quand on se met devant le miroir qui est au sol, sous un emplacement bien précis, on peut reconstituer à quatre reprises un cercle, puisqu'il y a des peintures, des lignes bleues peintes de cette manière-là sur les quatre angles de la pièce. Alors, il est intéressant de voir que quand j'ai parlé avec ces artistes, certains avaient des connaissances historiques et savaient parfaitement ce qu'étaient les cabinets de curiosité, comme Spoerry, par exemple, dont on verra l'œuvre tout à l'heure. Par contre, Varini a réinventé les anamorphoses, si vous voulez. Il n'avait aucune idée de ce que c'était que les anamorphoses du XVIe et du XVIIe siècle, et ça ne l'intéressait d'ailleurs pas du tout. On arrivait tout à fait à l'intégrer dans une collection de ce type-là. Alors, troisième catégorie, c'est l'histoire locale et l'adéquation au décor du château. Ici, une œuvre qui, je dois dire, existait déjà quand je suis arrivé. C'est la seule œuvre qui appartenait à une exposition à Meltem et qui avait été achetée et qui est donc restée sur place. C'est l'œuvre de Lothar Baumgarten, qui est complètement faite à partir des écrits de Rabelais. Rabelais habitait tout près à la Devinière, tout près d'Oiron, c'est à 10 ou 15 kilomètres. Et Baumgarten a pris des mots des phrases, des expressions, quelquefois un petit peu saugrenues de Rabelais, et les a simplement plaquées au mur, imprimées sur du papier et collées sur le mur, quelquefois sur ces grands carrés noirs, et quelquefois avec des traductions en allemand, parce qu'il est allemand, Baumgarten, et il avait remarqué que Rabelais avait été traduit dès le XVIe siècle en allemand. Donc ce phénomène l'intéressait. Les corps en morceaux de Daniel Spoerry, qui est parti de l'idée que cette grande salle centrale, qui est magnifique parce qu'elle elle occupe toute la largeur du château, du cours central, donc elle est merveilleusement éclairée des deux côtés, et il pensait que ce serait une merveilleuse Rüstkammer, comme on dit en allemand, c'est-à-dire une salle d'armes, comme il y en a une au château d'Ambrasse, où il y a un magnifique cabinet de curiosité. Et il est parti donc sur cette idée de remeubler cette grande salle en y remettant des armures à sa manière, c'est-à-dire ces assemblages d'objets de toutes sortes, mais dans lesquels on trouve souvent des morceaux d'armure et où la thématique de la guerre est très présente. Thématique qu'on retrouve dans toute la salle. Et il y a au fond là une peinture de Daniel Schlier, aussi avec deux chevaliers en armure, qui a été mise par Paul Hervé Parsi, qui est l'administrateur de Oiron actuellement. Donc vous voyez que la collection se poursuit et s'agrandit au fil des ans. Même si pour l'essentiel, je dirais pour 80%, c'est à peu près les commandes et les œuvres que j'avais pu faire au début des années 90. Ici, la salle du roi. Vous savez, comme dans tout château, il devait y avoir une salle du roi avec, bien entendu, un lit pour le roi s'il lui advenait de venir jusque dans le château, puis ça assurait la présence royale vis-à-vis de ses vassaux. On avait conservé ce décor absolument magnifique, un plafond absolument splendide, 17e, la cheminée, également les lambris, et puis pour le reste, les murs étaient en moellon brut. Et donc on a discuté entre Frédéric Didier, l'architecte des monuments historiques à l'époque, qui est maintenant à Versailles, et Ruteau, pour trouver une solution pour restituer des murs qui soient corrects dans cette salle. Et Ruteau a fait ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire, comme vous le voyez là, des peintures qui sont de la même couleur que le mur. Et c'est sans doute l'une des seules œuvres ou d'un des seuls endroits où Ruteau ne suscite pas des critiques extrêmement virulentes, comme c'est très souvent le cas, les gens disant les peintures ont la même couleur dans le mur, on se fout de notre gueule, etc. On leur explique que les peintures de cette salle ont disparu, qu'il n'était pas question d'en faire des copies ou de restituer quelque chose qui n'était pas là, et donc l'artiste a simplement mis un certain nombre de toiles de dimensions différentes et de formats différents pour rappeler le souvenir des peintures qui étaient là. Le choix de la peinture et de la couleur, de cette couleur orange, était assez intéressant parce que l'architecte et l'artiste se renvoyaient la balle. L'artiste disant c'est à vous, monsieur l'architecte, de choisir la couleur des murs, et moi je peindrai, ou les toiles seront peintes en fonction de ça, de la même couleur. Et l'architecte disait mais non, monsieur l'artiste, c'est à vous. Et alors on a trouvé la solution en prenant en fait cette couleur orange dans un décor de l'intérieur des fenêtres, et c'est je trouve un très beau souvenir sans doute de ce qu'étaient les couleurs dans ces châteaux, qui étaient sans doute beaucoup plus vives que ce qu'on peut imaginer très souvent aujourd'hui. Cela dit, dans la plupart des cas, il y avait sans doute des tapisseries sur ces murs-là. Alors, autre catégorie, c'est ce qui se rapporte directement au cabinet de curiosité. On a par exemple une œuvre qui n'est pas, c'est pas cette photo, de James Lee Byers avec une dent de narval, c'est-à-dire la fameuse corne de licorne qui est montée sur un magnifique marbre de Paros. Vous savez que les cornes de licorne, c'était ce que les princes et les aristocrates pouvaient acquérir de plus précieux au XVIe siècle, et elles avaient une valeur absolument énorme. Elles avaient évidemment aussi des pouvoirs magiques de protéger contre l'empoisonnement. Et Guillaume Bell a fait une espèce de petit cabinet de curiosité. On a longtemps hésité si on devait le faire, si on devait faire une espèce de reconstitution, si on devait faire une espèce de transposition d'un cabinet de curiosité avec des objets industriels du 19e et 20e siècle. Et en fin de compte, on a opté pour une œuvre de Guillaume Bell qui en fait fait une espèce de stéréotype de cabinet de curiosité qui est quasiment presque une petite caricature, mais qui donne en fait les indications et les informations nécessaires au public qui ne connaît pas l'histoire et ce genre de choses. Alors, on a voulu aussi travailler beaucoup avec les cinq sens. C'était important de ne pas rester uniquement dans le visuel. Et donc, il y a des œuvres à la fois acoustiques, il y a une musique qui a été faite avec la fanfare d'Oiron par Gavin Bryars. Et il y a ici l'œuvre de Kabakov et son ami Vladimir Tarasov. Vous voyez cette partition au premier plan devant les toilettes. Et on entend un concert pour les mouches. Et en fait, c'est la musique faite par Tarasov à partir de bruits de mouches. Il y a également ici aussi une œuvre qui est à la fois pour l'odorat, on pourrait dire, parce qu'il y a des rosiers dans cette œuvre de Finlay, et également le son où on entend les abeilles qui se précipitent dans ces ruches. C'est une œuvre sur la guerre, sur la bataille, une bataille de Midway dans le Pacifique pendant la guerre, et c'est un jeu de mots de la part de Finlay entre ce qu'il appelle les sea hives, c'est-à-dire les porte-avions, pardon, excusez-moi, et les beehives, les ruches. Alors là, une œuvre de Wolfgang Leib qui est faite uniquement avec des plaques de cire, de vraie cire d'abeille, et dès qu'il fait un petit peu chaud, il y a là-dedans une odeur absolument extraordinaire, donc de quoi ravir l'odorat. Pour le toucher, on a une œuvre de Marina Abramovic, dont je n'ai pas de photo ici, où il faut se coucher sur un lit et poser sa tête sur une pierre qui a des vocations particulières. Et on a une œuvre qui est devenue relativement célèbre, celle de Marek, avec les fameuses assiettes, 150 assiettes, qui reprennent les profils de 150 habitants d'Oiron, les vers en dessous avec les initiales de ces personnes et les serviettes, voilà, les vers et l'empreinte de la main de chacun sur leur serviette. Et le tout est utilisé chaque année. Tout ça se poursuit chaque 30 juin. Il y a un dîner avec tous les participants du village, donc, et qui se retrouvent dans la salle, vous voyez, dans la salle d'armes avec les cheveux ris au mur pour dîner ensemble. Tout ça a permis de faire une liste d'artistes qui n'était pas conventionnelle et de chercher des artistes en fonction de leur spécialité, de leur thème préféré. Alors il y a quelques vedettes, il y a ce Lewitt aussi qui est représenté dans le château, quelques noms que j'ai cités, mais il y a aussi des artistes qui étaient relativement peu connus et qui ont fait des œuvres parfaitement adéquates, comme par exemple Georg Ettel, un artiste allemand qui a dessiné des chevaux sur des enduits qui existent dans un passage où on sait qu'il y avait des portraits des chevaux d'Henri II. Ces portraits ont disparu depuis très longtemps et il a restitué donc les dessins des chevaux à cet endroit-là. C'est une œuvre qui a beaucoup de succès. Voilà donc une liste de peu conventionnel, mais qui colle autant que possible au château, à son histoire et à l'idée que j'ai élaborée à partir de ça, mais qui correspond à une période du château, c'est-à-dire celle des cabinets de curiosité. Alors, troisième caractéristique de cette collection et de ce château. C'était, en tous les cas, à l'époque où je m'en suis occupé, début des années 90, une espèce d'ovni. Parce que c'était un monument historique, mais ce n'était pas un musée, et on y faisait une collection. Tout ça dans des conditions assez étranges, avec une association qui s'occupait de ça, qui était à la fois autorisée, mais pas totalement, et on est arrivé à avancer et à faire tout ça. Mais l'avantage, je dirais, c'est que justement, ce n'était pas un musée. Si ça avait été un musée, il faut le dire carrément, ça ne se serait jamais fait, ça n'aurait pas été possible, parce qu'on n'avait pas toutes les conditions requises pour un musée. Enfin, on est plus souple dans les musées d'art contemporain que dans les musées d'art ancien, mais enfin quand même. Mais de toute façon, on n'avait pas de gardien, il y avait deux personnes ou trois personnes au maximum, et on a pu faire tout ça parce que justement, ce n'était ni l'un ni l'autre, c'était ni la carpe ni le lapin. Et on a pu avancer et du coup j'ai tiré aussi toutes les conséquences de tout ça, c'est-à-dire que j'ai évité systématiquement d'utiliser des vitrines, tout le mobilier muséologique, j'ai repensé absolument tous les adjuvants, si vous voulez, tous les instruments du musée. Par exemple, les cartels étaient écrits à la main. Il y avait à côté de chaque œuvre une sorte de signalétique avec une gravure ancienne du XVIe ou du XVIIe siècle qui ne correspond pas forcément à l'œuvre qui est présentée, mais qui donne une espèce d'indication qui est comme une clé visuelle, comme dans une partition musicale, si vous voulez, une clé vous donne le ton, vous donne le la, et là aussi c'est une clé visuelle avec une gravure ancienne qui donne un peu l'ambiance et qui pousse à faire usage de son imagination et à regarder et à voir. Pas de texte, pas de panneau avec des longs textes, etc. Je suis complètement convaincu que dans les musées, on doit apprendre aux gens à voir et à regarder, et on n'apprend pas à voir ou à regarder en lisant, on apprend à regarder en voyant. Donc, du visuel, des indications extrêmement simples, et pour la conservation quand même et la préservation des œuvres, des méthodes relativement simples, c'est-à-dire les tableaux qui étaient fragiles accrochés en hauteur pour qu'on ne puisse pas les toucher, puisqu'il n'y avait pas de gardien dans toutes les salles, comme je vous l'ai dit. Certaines salles qui sont fermées avec une porte d'écurie à l'entrée, vous savez, ces portes d'écurie à deux battants, c'est-à-dire juste le battant supérieur est ouvert, mais on ne peut pas pénétrer, on voit donc l'œuvre depuis la porte. Enfin, un certain nombre de méthodes de ce type-là qui permettaient de montrer les œuvres et de ne pas trop avoir de problèmes, bien sûr, de préservation et de conservation. Et en même temps, on s'est dit qu'on mettait tout le poids sur la maintenance, c'est-à-dire qu'il y avait à demeure une personne qui était chargée de s'occuper de la maintenance s'il y avait quelque chose qui s'abîmait, on intervenait immédiatement et c'était des méthodes extrêmement simples. Toute cette collection et son implantation dans le château a aussi permis de préserver certains éléments du château qui sinon avaient de grands risques de disparaître. Il me paraissait extrêmement important de garder autant que possible toutes les strates du château et quelquefois des vieux éléments de papier peint qui étaient là, mais on ne savait même pas très bien de quelle époque, du 19e, peut-être plus ancien, on ne sait pas très bien. Le fait d'implanter une œuvre dans une salle la figeait très souvent et permettait qu'elle reste telle qu'elle. Il faut bien se dire que dans un château de ce type-là, qui est fait avec des très grandes salles, on découpait très souvent ces espaces très rapidement après la construction, en y mettant des faux plafonds, parce que c'était impossible à chauffer sinon. Et la tendance des architectes des monuments historiques est bien entendu à restituer toujours la pureté du monument tel que l'architecte l'a conçu et à enlever tout ce qu'il considère comme des scories. En plus, il y a une espèce de tendance à considérer que tout ce qui est de l'Ancien Régime est à valoriser, et puis après la Révolution, c'est le 19e siècle, de toute façon, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas bien, et a fait disparaître. Donc, on a pu préserver un certain nombre de choses grâce au fait que ça devenait peu ou prou des œuvres d'art, et on gardait aussi cette espèce de déambulation dans le château, extrêmement sympathique et agréable, avec des portes que le visiteur doit ouvrir lui-même, et qui doit refermer, et on se sent, au fond, tout seul dans ce monde où on découvre une œuvre derrière l'autre dans les salles. Le quatrième point sur lequel j'aimerais insister, et on en a parlé un peu ce matin, Olivier Keplin en a parlé, j'étais étonné, parce que c'est quelque chose dont jusqu'à présent on ne parlait pas beaucoup, c'est la question du goût, du jugement de goût. Il y a fait allusion, et il me semble qu'en tous les cas, dans le monde de l'art contemporain, c'est un problème qu'on évacue immédiatement. On ne parle pas de ça, on ne parle pas de goût. La fameuse phrase de Picabia, le goût est fatigant comme la bonne compagnie, est devenu un dogme pour les avant-gardes. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup préoccupé grâce à une expérience que j'ai eue tout à fait au début en faisant une exposition dans le château. La première année où je m'en occupais, j'ai fait une exposition avec le consortium de Dijon. Et ils avaient dans leur collection une énorme pièce d'une artiste américaine qui s'appelle Jessica Stockholder. Et c'était une énorme pièce faite de poutres, de morceaux de béton, de ciment, carrément de sacs poubelles, le tout scotché, enfin, une espèce d'univers tout à fait urbain, citadin, brutal, très new-yorkais. Et comme cette pièce était énorme pour la montée, il n'y avait qu'un endroit quasiment où on pouvait la mettre, c'était la salle que vous voyez là, c'est-à-dire la grande salle d'armes. On a installé ça là-dedans. Et j'ai vu défiler les gens de la région, du village, qui sont venus au vernissage, et les gens étaient extrêmement choqués, étaient vraiment très choqués de la présence de ça. Et j'ai compris une chose qui est une évidence, mais qui ne l'est pas toujours dans notre petit milieu de l'art contemporain, où on croit que les effets d'opposition brutale, comme ça, de violence esthétique, sont stimulants et sont quelque chose de positif, qu'au fond, la majorité du public n'y comprenait rien. Et donc, je suis parti sur l'idée de respecter le décor du château et d'essayer, dans tous les cas, de faire des mariages entre les œuvres et ce décor et en faire en sorte que, aussi bien sur le plan spatial que sur le plan intellectuel et visuel, il y ait une adéquation des œuvres au château, et pas seulement sur le plan conceptuel. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, je crois encore aujourd'hui, dans le cabinet des muses, ou dans la grande galerie de la guerre de Troie, où il y a les fresques du XVIe siècle, il n'y a aucune œuvre contemporaine, et ce n'est pas nécessaire, et ce serait sans doute assez malvenu. il y a suffisamment d'espace dans le reste du château pour mettre des œuvres de ce type-là. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui a fait le succès d'Oiron, si succès il y a, mais enfin, c'est un succès assez modeste, parce que ça n'a pas atteint malheureusement le très grand public, le très large public, mais dans le milieu de l'art, il est plutôt reçu d'une manière positive. Alors, un des facteurs aussi importants de Oiron, ça a été l'implication de la population. Vous le voyez là, je viens de parler de l'œuvre de Marek avec le dîner qui a lieu tous les 30 juin. J'ai parlé de la musique qui a été faite en partie avec la fanfare d'Oiron. Mais il y a eu également l'œuvre de Boltanski qui s'est substitué aux photographes scolaires. Vous savez, comme dans toutes les écoles, dans l'école Oiron, il y a tous les ans un photographe qui vient et qui photographie les classes. Alors, au lieu de photographier les classes, on a photographié individuellement tous les élèves de l'école. Et les gens qui voulaient évidemment acheter la photo, mais la photo avait un tampon Boltanski derrière, et donc sans le savoir, pour beaucoup d'entre eux, ils avaient une œuvre d'art d'une certaine manière, et on mettait également les photos dans le château, et on a sur 3 ou 4 ans donc tous les gamins de l'école d'Oiron, alors avec les changements de vêtements, l'âge et le temps qui passe, ils peuvent se voir grandir, et ça a pris la place évidemment des galeries de portraits d'ancêtres ou des rois de France qui se trouvaient dans la plupart des châteaux. Voilà. Le sixième point, c'est... Excusez-moi. C'est... tout ça a été fait, donc, je vous l'ai dit, grâce à des commandes publiques, mais les commandes ne représentent, je crois, qu'à peu près la moitié des œuvres du château. Il y a aussi un certain nombre d'œuvres qui appartiennent au FNAC. Et ce qui a été très important dans l'élaboration de ce projet, on en a parlé un petit peu, je crois, aussi ce matin, c'est qu'on a eu le temps. Le temps était un facteur extrêmement important, c'est-à-dire que ce n'était pas une exposition temporaire, ce n'était pas une opération où il y avait un délai, après 6 mois, 8 mois, il fallait absolument que l'œuvre soit là. On avait le temps, et j'ai parlé avec beaucoup d'artistes. On avait aussi ce processus qui a été extrêmement utile, qui est celui utilisé normalement par la commande publique, c'est-à-dire qu'on faisait... d'abord une commande auprès des artistes pour un projet. Je discutais avec l'artiste, l'artiste rendait un projet et on pouvait le modifier. Je veux dire, certains projets n'ont jamais été réalisés d'abord parce que ça n'allait pas ou c'était trop complexe ou il n'était pas adéquat à l'idée générale. Mais j'avais la capacité, après que ce projet était déposé, de discuter avec l'artiste et d'essayer de l'orienter pour que justement ce mariage avec le bâtiment et cette adéquation puisse avoir lieu. Et ça me paraît un facteur extrêmement important. Voilà, donc c'est un musée en quelque sorte sans réserve, puisque tout y est montré. C'est l'inverse du musée d'art contemporain, où on achète des œuvres et puis 5 ans, 10 ans après, on les fait passer dans les réserves et elles passent aux oubliettes. Ici, tout est montré. Je suis content que maintenant, presque 17 ans, 18 ans après, ces œuvres soient encore en place. Et peut-être qu'un jour, ça deviendra une espèce de référence, comme une espèce de coupe stratigraphique à travers le goût des années 90, qui sait. On a souvent parlé d'une seconde phase pour ce château, qui serait des commandes pour le parc et pour les jardins. Plusieurs ministres ont même dit qu'ils allaient donner les moyens pour le faire, se sont investis, puis rien ne s'est jamais fait. Et je peux que formuler un souhait, c'est celui que cette seconde phase se réalise un jour. Et il faudrait également qu'on donne aussi un peu plus de moyens pour... la communication pour qu'on fasse connaître un peu mieux la collection et surtout les expositions, puisqu'on sait que c'est avec les expositions et les événements que le public revient. Et j'aimerais juste dire un dernier mot par rapport à ce qui s'est dit ce matin, ce qu'a dit Marie-Laure Bernadac sur l'intervention d'artistes dans les musées nationaux. Elle a dit elle-même qu'il y avait même un espèce de petit danger à ce que tout ça devienne une habitude et un quasi-stéréotype. Je suis d'accord avec elle sur le fait que l'artiste invité qui met juste la cerise sur le gâteau, bon, c'est bien, ça peut faire venir des gens parce que, qui sinon ne viendraient plus voir les collections. Mais ce qui me paraît beaucoup plus important aujourd'hui, c'est de travailler avec des artistes. Je l'ai fait à Düsseldorf quand je suis arrivé à la tête d'un musée. J'ai demandé à deux artistes, Thomas Huber et Bogomir Ecker, de complètement reconcevoir avec moi et les conservateurs l'accrochage de la collection. Ça a été un scandale dans le milieu professionnel. Beaucoup de visiteurs ont apprécié, en particulier les jeunes. Mais je crois que dans les musées, il faut que nous nous posions très sérieusement cette question. Je crois que si on continue à montrer les collections comme on les montre, c'est-à-dire selon les bonnes vieilles catégories de l'histoire de l'art et la chronologie et les sacro-saintes séparations entre les différentes techniques, on n'aura plus personne pour visiter les collections dans quelques décennies. J'en suis à peu près persuadé. Et donc, il faut donc repenser vraiment la manière dont on se sert de ces collections, qui sont souvent d'une richesse absolument formidable, comment les rendre présentes, comment les rendre attractives pour le public. Et là, je suis sûr qu'il faut complètement réinventer nos modes de présentation, de la même manière que, de toute façon, comme ça a été dit aussi, il va falloir réviser notre point de vue extrêmement européano-centriste de l'histoire de l'art et sans doute imaginer des catégories et une taxinomie complètement différente qui devra se mettre en œuvre dans les prochaines années.